religions du monde, Geneviève Delru.
Une étoile flamboyante est apparue dans le ciel. C'est évident qu'elle annonçait une catastrophe particulière. Une sentence lourde, sévère et implacable. Même si je sais que les astronomes leur attribuent des causes naturelles et que les mouvements de ces astres sont calculés, qu'importe. Ces choses ont une influence puissante sur l'esprit humain. Et c'est sans aucun doute un des signes avant-coureurs du jugement de Dieu. Un avertissement manifeste que Dieu n'a pas encore suffisamment puni le monde, qu'une calamité abominable va s'abattre sur ses habitants.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans la première partie de Religion du Monde, nous partons au Festival d'Avignon où se joue le journal de l'année de la peste de Daniel Defoe, mis en scène par Cyril Legris et interprété par le comédien Thibaut Corion. Et dans la deuxième partie, nous mettrons nos pas dans ceux de Charles Wright et le suivrons dans sa grande traversée à pied du Massif Central, une marche initiatique, une aventure spirituelle, relatée dans son livre « Le chemin des estives » publié chez Flammarion. 1665, la peste s'abat sur la cité de Londres. Les plus riches vivent en masse à la campagne, tandis que les pauvres sont livrés à leur destin. Un riche marchand choisit, après moult hésitations, de rester pour protéger ses biens et témoigner sur le chaos social qu'entraîne cette épidémie. La peur, l'égarement, l'incompréhension et aussi le recours à la religion et au charlatanisme. Le journal de l'année de la peste de Daniel Defoe, publié en 1722, traduit, adapté et mis en scène par Cyril Legris, est une immersion au cœur de cette épidémie par l'expérience intime de ce marchand puritain tiraillé entre la raison moderne et la main de Dieu châtiant l'humanité. Ce journal du XVIIe siècle, par les questions qu'il soulève, est d'une actualité saisissante. Cyril Legris.
Je suis parti du texte anglais parce que pour moi c'était très important de partir de celui de Daniel Defoe. C'était d'une criante actualité par rapport à ce qu'on a traversé. Et justement, ce qui était très intéressant, c'était de ne pas le ramener directement à la période à laquelle on est en train de vivre, mais plutôt de faire entendre au XVIIe siècle des discours qui finalement sont les mêmes qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que vous remplacez le mot de Dieu qui est utilisé par le personnage, par le mot « nature » aujourd'hui, et vous avez les mêmes discours. C'est-à-dire que c'est la nature qui se venge. Et bien, au XVIIe, c'est le châtiment divin.
Dès le début, il y a ceux qui vont fuir la ville, qui vont fuir Londres. On pense beaucoup à la fuite des citadins, notamment des Parisiens, vers la province. La question des petites gens obligés de rester parce qu'il faut bien vivre et c'est des petits boulots qui d'ailleurs vont faire marcher malgré tout la ville. Mais de toute façon, il faut bien vivre et ces gens-là doivent rester. La question, alors le mot n'est pas donné vraiment exactement comme ça, mais du confinement, et avec toutes les polémiques, on retrouve les polémiques d'aujourd'hui, est-ce qu'il faut le confinement ou pas le confinement ?
Oui, oui, les mécanismes, en fait, les mécanismes sont les mêmes, qu'ils soient intellectuels, sociologiques, religieux et autres. En fait, on retrouve la même chose, c'est la permanence en fait, de l'être humain. Donc les angoisses sont les mêmes, les angoisses face à la mort, face à la douleur, face à la maladie. On retrouve tous ces mécanismes-là, c'est ça qui est passionnant. Et le mot confinement, enfin, c'est en anglais, on peut le traduire en français par confinement, séquestration, enfermement. On retrouve en fait exactement ces mots-là. Et la question est clairement posée parce qu'il faut savoir en fait si est-ce que c'est un bien ou pas de pouvoir enfermer les personnes et du coup de risquer de tuer des personnes qui, elles, ne sont pas malades parce qu'elles sont de la même famille, mais parce qu'il y a un risque de propagation. Donc à nouveau, on se pose la question de savoir est-ce que justement il faut privilégier le bien public contre le bien privé.
Alors, il y a également tous ces atermoiements de la part des autorités sur la marche à suivre.
Alors, ça aussi, c'était une grande question parce que font les... Alors, il faut distinguer deux choses. Il y a le pouvoir royal et il y a l'autorité du gouvernement. Et là, on a une distinction qui est très claire. C'est-à-dire que le pouvoir royal, en fait, c'est celui qui, par justement ses vices, peuvent amener le châtiment divin. Et ça, c'est clairement dit par le personnage. Et en parallèle, on a le gouvernement qui, lui, en fait, prend des mesures, ou pas d'ailleurs, puisqu'elles sont discutées, ou pas assez, etc., mais qui sont très très importantes parce que, en fait, Defoe réfléchit justement à la place de ces mesures-là au sein d'une société et leur rôle, quoi.
On voit toute une liste de mesures qui vont être prises,
Et là, on pense à des mesures qui sont finalement assez actuelles.
Oui, on retrouve exactement les mêmes choses. C'est-à-dire que face à un mal qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, déjà, bien sûr, si les scientifiques travaillent en parallèle, il leur faut un peu de temps, mais il faut aussi impérativement trouver des solutions au plus vite. Donc, en fait, on travaille à l'aveuglette, c'est-à-dire on essaye, on tente des choses.
L'ouverture de cette pièce, c'est le narrateur avec un masque, le masque d'un médecin, un masque un peu en tête d'oiseau. Ça correspond à quoi ?
Alors, c'est un masque qu'on appelle le docteur de la peste, qui est certainement un personnage fictif, en fait. On n'en est pas totalement sûr. C'est plutôt une reconstitution du 19e siècle, quand les historiens se sont justement intéressés beaucoup au Moyen-Âge, ont beaucoup fantasmé sur le Moyen-Âge. On pense, en fait, que ce masque, dans l'idée, était un masque un peu comme un oiseau avec un très long bec, et dans lequel on mettait un ensemble d'aromates, de parfums, qui permettaient, en fait, aux médecins d'approcher, donc, les pestiférés. Et on pensait que par l'inhalation, on se protégeait. Mais il y a d'autres éléments, par exemple, le tabac aussi, c'était quelque chose de très important. Parce que le tabac lui-même était censé nous protéger. C'est-à-dire que les gens fumaient, la pipe notamment, et se protégeaient d'un nuage de fumée. Ça avait des vertus curatives. Voilà. Donc il y a un ensemble de choses. Et ces feux aussi, on les retrouve aussi dans les rues de la ville de Londres, et les médecins ne sont pas d'accord entre eux. Certains disent qu'il faut enfumer les maisons, les rues, etc. Et d'autres disent que c'est tout le contraire. Donc on retrouve en même ces mêmes questionnements, quoi, et ces mêmes désaccords surtout.
C'est même polémique.
C'est très polémique, bien sûr.
Effectivement, ça fait allusion à la polémique au début où on disait les fumeurs sont protégés du Covid. Vous vous souvenez ?
Exactement. Et puis, on a dit encore beaucoup, beaucoup d'autres choses aussi. On pouvait boire des boissons chaudes aussi qui permettaient de tuer le virus, etc. Enfin, il y a un ensemble de choses qui sont plus ou moins farfelues, en fait, qu'on retrouve, en fait. Et une fois de plus, on retrouve les mêmes mécanismes. C'est ça qui est assez fascinant, finalement. Et inquiétant, parfois, aussi. Parce que, finalement, en 400 ans, qu'est-ce qui a progressé dans l'esprit humain ? Si on remplace des mots et on reprend les mêmes, parfois, on peut se poser un certain nombre de questions.
Alors, sur les mêmes mécanismes, le mécanisme, effectivement, les mécanismes qu'engendre la peur, à savoir des oiseaux de mauvais augure qui vont dire voilà, que c'est là, effectivement, c'est une catastrophe qui va s'abattre sur la ville, que tout le monde va périr. Il y a les charlatans qui vendent des tas de drogues. Il y a les superstitions. Et puis, il y a de l'autre côté ceux qui disent que c'est le châtiment de Dieu.
Oui, alors il y a encore un savoureux mélange là-dedans, parce que oui. C'est vrai que... Alors, notre personnage, il faut le savoir, est quand même un presbytérien.
Donc un puritain.
Donc un puritain, puisque chez les puritains, il y avait un certain nombre de mouvements, même de sectes, et donc les presbytériens en font partie. L'histoire d'Angleterre récente, d'ailleurs, est très riche, d'ailleurs, de ces combats. Et justement, c'est aussi la naissance de la pensée moderne. Pourquoi ? Parce que ce châtiment de Dieu, il existe toujours. D'ailleurs, c'est ce que répète le personnage, en fait. Mais pourquoi c'est moderne ? Parce que contrairement au Moyen-Âge, ce personnage du puritain est en train de réfléchir à la liberté, à la rationalité. C'est-à-dire que c'est très important chez les puritains à l'époque. C'est d'ailleurs pour ça qu'on remplace la liturgie par le sermon, parce qu'il faut sermonner, en fait, l'assemblée. Il faut leur expliquer avec des points de vue rationnel, presque j'ai envie de dire scientifique même parfois, des arguments, enfin voilà, rationnels, comment construire le monde d'aujourd'hui. Et c'est ça que font les puritains, et c'est ça que fait le personnage aussi. Même s'il se défend en disant « je ne suis pas là pour sermonner », si, il est là pour sermonner justement, et pour attirer l'attention. Donc c'est ça aussi qui est en jeu, en fait, dans ce personnage. Et comme la raison fait son apparition, en fait, dans la pensée, Dieu est à sa place, mais c'est pareil que Descartes, hein. Dieu est à sa place, et en même temps, il faut trouver un espace de liberté pour l'homme. C'est-à-dire que c'est très simple, Dieu a créé la nature, il la maintient dans son mouvement, le personnage le dit, mais il n'a pas recours au surnaturel. Et c'est là la rupture avec le Moyen-Âge. Parce que là, d'un seul coup, l'homme cherche sa part de liberté qui lui permet d'agir sur le monde au quotidien. Donc, la place pour aussi les scientifiques d'aller trouver les moyens d'aider la société. C'est une vraie réflexion sur la société elle-même.
D'où ce passage où, effectivement, une femme montre un ange vêtu de blanc dans le ciel. Et lui, il ne voit absolument pas cette créature céleste. Hein. Il dit « je ne vois rien » et j'ai souri. Et là, on lui dit « pourquoi ? Pourquoi ris-tu ? Si tu ne vois rien, c'est que tu es un mécréant. » Ça, c'est un passage très fort de la pièce. Cyril Legris.
Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment l'illustration de ce dont on vient de parler. C'est-à-dire que c'est justement toute la différence que fait le personnage, qui est un riche cellier, en fait, et qui a quand même une drôle de considération du peuple, enfin, qu'il le traite un peu, voilà, de cette manière. Ils le regardent de haut, quoi. Ils sont pas capables de distinguer les choses. Et c'est pour ça que le charlatanisme existe et que tous ces gens en profitent pour les ruiner, quoi. Et c'est justement ça qu'il essaye de combattre en tant que puritain, c'est de faire justement cette différence-là entre ce charlatanisme, ces astrologues, enfin, tous ces devins et autres, en fait, qui vraiment étaient là pour arnaquer le peuple, et pas que le peuple, hein, parce qu'on sait qu'il n'y a pas que le peuple qui avait recours aux astrologues, mais qui, justement, par l'usage de la raison, essaye de faire la part des choses, de rendre à Dieu sa place telle qu'elle est, et de séparer, quelque part, le monde d'ici et maintenant, de la cité de Dieu, quoi. Et à l'intérieur de ça, de trouver, justement, une liberté. Et cette liberté, c'est surtout de s'éloigner le plus possible de ce que lui nomme le charlatanisme, et donc le fanatisme, en fait. Puisque la raison n'a pas sa place dans le charlatanisme. Or, dans ce puritanisme, la raison a toute sa place. Après, on peut en discuter de cette raison.
Comment faut-il interpréter la fin, Cyril Legris, quand donc le narrateur dit, voilà, « Si 10 lépreux ont été guéris et qu'un seul d'entre eux est revenu pour rendre grâce au ciel, je veux être celui-là. » Il y a quand même une ambiguïté dans cette phrase.
Oui, justement, et c'est ça qui est très intéressant, c'est parce que pour moi, le personnage est ambigu. Je ne voulais surtout pas avoir un personnage qui soit là pour être de nos côtés en disant, en mettant d'un côté ce qui est bien et ce qui est mal, parce que ce n'était pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est cette ambiguïté-là, parce que finalement, la vérité est partout et nulle part. Et c'est ça aussi que souligne le personnage. Par moment, en fait, il a des accès de fanatisme, ce personnage, même s'il dénonce un autre type de fanatisme. Il parle, par exemple, de la population, des pauvres, et il dit, finalement, heureusement qu'ils sont tous morts, parce que sinon, on n'aurait pas pu les nourrir. Donc, c'est ça qui est intéressant et inquiétant en même temps. Et c'est ça aussi qui est aussi très moderne. C'est parce que parfois aussi, il y a des choses qui résonnent comme ça, un peu de la même manière aujourd'hui. Surtout en France, je trouve qu'il y a un peu une vraie hystérie autour de cette question de la Covid. Et moi, ça me semble intéressant que parfois, on a un ministre de la Santé ou d'autres qui sont tellement dans une idée de vouloir sauver tout le monde, etc. Enfin, parfois, on se pose un certain nombre de questions et qu'il y a presque l'ombre un peu comme ça, fanatique, en fait, qui peut apparaître, qui du coup démonte en fait la démarche globale. Et ce personnage-là est aussi là-dedans, c'est-à-dire qu'il veut être celui qui témoigne que Dieu garde la main sur tout, quoi. Et ça peut être très inquiétant. Et ça, il faut qu'on l'entende. Et c'est pour ça que je voulais qu'on conclue là-dessus, pour pas que quelque part on finisse en se disant « Ah bah oui, le personnage a raison et on est avec lui ». Non, il faut s'interroger et à la dernière seconde, il nous cueille. Parce qu'il y a cette phrase-là qui résonne d'une manière particulière et là on se dit « Attention ».
Plus d'une heure, seul à arpenter de son pas énergique la scène dépouillée du théâtre de la Condition des Soies du Festival d'Avignon, une ancienne rotonde au mur de briques de 6 mètres de hauteur qui accentue le sentiment d'enfermement, c'est le comédien Thibaut Corion qui a pris l'habit du narrateur du journal de l'année de la peste de Daniel Defoe, un texte qu'il saisit à bras le corps.
C'est un vrai travail, c'est-à-dire c'est un texte qu'il faut prendre en tout cas physiquement. Ça a été un vrai travail avec Cyril quand il m'a proposé donc de travailler ce texte-là, le roman au départ. Il a fait une première adaptation qui était plus longue aussi, donc on a dû resserrer. Il y avait beaucoup de thèmes qu'il fallait aborder et on a resserré vraiment un essentiel, je pense, pour raconter toute cette traversée de la peste, la traversée de cette ville. Ça commence à l'ouest, puis ça traverse petit à petit. Et pendant 1h10, en fait, c'est la peste qui le traverse, lui aussi, physiquement. Il ne va pas l'attraper, lui, mais c'est tout autour de lui. À un moment, il va avoir peur de l'avoir attrapé. Et cette peste le travaille intellectuellement et physiquement. On parle de milliers et de milliers de morts. Lui veut s'enfuir au départ, et quand il reste, en fait, il se confronte surtout à lui-même. Le travail que j'ai pu faire avec Cyril, c'est aussi ce travail de solitude, d'intimité, de réflexion sur soi-même. Et de la même façon qu'en tant qu'acteur, j'ai travaillé avec ce texte de manière laborieuse aussi, charnelle, organique, essayer d'aller toujours fouiller la chair du texte. Et comme le personnage, d'un coup, vit dans sa chair tout ce qui se passe à Londres, et politiquement aussi, et comme je disais, intellectuellement en effet. Oui.
Il y a un moment très fort, Thibaut Corion, c'est lorsque vous enlevez votre chemise, vous voulez faire une ablution en fait, vous voulez vous laver d'une possible contamination. Et là, c'est un temps extrêmement fort de la pièce. Vous vous sentez envahi, en fait, par la peste.
Oui, c'était important pour nous de montrer, parce que je raconte beaucoup tout ce qui se passe. Et ça, c'est un moment privilégié dans le spectacle, où d'un coup, il n'y a plus de parole. Mais au contraire, c'est le corps qui va s'exprimer. Il le dit beaucoup, je suis terrifié, cela fait froid dans le dos. Et il le raconte là, c'est vraiment organiquement, il a peur de cette maladie. À l'époque, on ne savait pas comment ça se transmettait, donc on a des parfums pour se purifier, comme disait Cyril, il y a les feux, mais c'était il y a 3 siècles, et maintenant, en fait, ça a l'air un peu ridicule, maintenant qu'on sait que c'est avec des antibiotiques, et que c'était les rats et les puces. Eux, à l'époque, étaient complètement... C'était vertigineux pour eux, ce qui est arrivé. Et ce moment où lui a l'impression d'avoir la peste, il ne sait pas quoi faire. Et il est presque en rejet de son propre corps, en fait, et de cette chose qui pourrait être en lui, et il ne le sent pas. Comme il est dit dans le texte, on peut mourir en 2 ou 3 jours, voire même en quelques heures, une fois que la peste se déclare. Donc c'est un moment de rejet, et de recherche de son propre corps aussi, d'exploration.
Il y a ce moment où vous passez les mains sur le visage. Ça veut dire quoi à ce moment-là ?
Il y a même un cri muet. La chose ne peut pas s'exprimer. Et en effet, c'est quelque chose qui est insidieux. C'est-à-dire qu'évidemment, la peste peut être sur le corps, mais c'est surtout son cerveau qui devient malade à ce moment-là, où cette chose, cette idée s'ancre véritablement de cette maladie, de cette souillure qui peut avoir pris et son corps et son âme. Puisqu'on parle beaucoup du châtiment divin, lui en parle tout le temps.
Les portes des maisons et les coins des rues sont couvertes d'annonces de charlatans, antidotes infaillibles, pilules avérées contre la peste, fumigation garantie contre la corruption de l'air, potion universelle contre la peste, mais la pire des folies, c'est celle de porter des charmes. Filtre, exorcisme, amulette et je ne sais quelle autre préparation pour fortifier le corps contre la peste, comme si la peste n'était pas dans la main de Dieu, mais le fruit du diable d'un esprit malin, une sorte de possession qu'il faut éloigner en brandissant les croix ou les signes du zodiaque, en marmonnant des incantations ou des formules symboliques. Il est impossible de les raisonner. Il se ruine de la manière la plus absurde pour ses insanités. Puisse la peste mettre fin au moins à cette horrible escroquerie.
Dans la recherche que le personnage fait tout au long du texte, il parle souvent de la main de Dieu, de la main souveraine, comme si la peste n'était pas dans la main de Dieu, mais le fruit du diable ou d'un esprit malin. Et il pose la question, et il parle de la main souveraine qui nous protège. Et en même temps, dans ce que disait Cyril, il y a la grande question... De la liberté, du libre arbitre de l'homme derrière cette main. Et il le dit, c'est un châtiment divin. Après, il se contredit en disant que ce n'est pas... ça ne sert à rien de brandir des croix ou des signes du zodiaque. Son cerveau est un peu embué de savoir si on peut complètement s'en remettre à Dieu, s'il faut quand même fuir la ville pour survivre. Et ces questionnements-là, en fait, le rendent un peu fou à un moment. Ouais.
Il est un peu égaré par moment.
Ah, bien sûr, il est égaré. C'est ça qui est intéressant dans ce texte-là. C'est-à-dire qu'il n'a pas de vérité absolue. Il cherche... Il a un ami médecin qui vient lui donner des conseils, il cherche avec lui. Il y a des remèdes absolument assez drôles, comme de retenir sa respiration quand on marche dans la rue. En effet, il est assez proche de la médecine, il en parle, ça se transmet de manière naturelle. Mais il y a toujours une bascule entre l'un et l'autre, c'est-à-dire il est un peu égaré et il marche.
Un moment important de la pièce, c'est le moment où effectivement il y a l'aspect du Dieu consolateur qui est mis en avant.
Oui, c'est à l'occasion d'une rencontre avec un marinier qui s'est un peu écarté de sa maison parce que sa famille est malade. Et lui continue à aller travailler pour apporter de quoi subsister à sa famille. Et il y a ce très beau passage entre le narrateur et ce marinier, où le narrateur ne pose pas du tout le Dieu comme celui qui peut sauver cet homme ou sa famille. Mais lui dit quelque chose de très très beau, c'est « puisque tu t'en es remis à Dieu, tu as un consolateur ». Il l'enchaîne avec « il nous juge tous actuellement ». Ce qui est très très beau, puisqu'en fait c'est presque enfantin et très joli. Enfin, je trouve que c'est d'une très belle poésie. C'est-à-dire de savoir qu'on peut être consolé, qu'il y a quelque chose, quelqu'un au-dessus qui nous englobe, qui nous enveloppe. Et c'est ça, ce personnage-là, c'est la promesse qu'il fait à ce marinier.
À défaut d'être soigné, être... Oui, ou être guéri, voilà. Être consolé.
Dieu n'est pas celui qui soignera, ce n'est pas le médecin, c'est autre chose, au-dessus, enveloppant.
Quand la pièce s'achève, vous en sortez comment ?
C'est très... une question très intéressante. Il y a quand même, je trouve, une violence incroyable dans tout ce qu'il a traversé et dans ce qu'il est, lui. Je sors de ce personnage et de la pièce... Moi aussi, un peu égaré par toutes ces pensées, parce que c'est vraiment dense, et il y a des véritables questions verticales. Et oui, c'est un peu épuisant, en fait, mais d'une bonne fatigue, une vraie bonne fatigue.
Merci, merci à tous les deux, merci. Merci.
Les pensées verticales du comédien Thibaut Corion à retrouver jusqu'au 31 juillet au Festival d'Avignon dans la pièce Journal de l'année de la peste au Théâtre de la Condition des Soies, mise en scène par Cyril Legris. Religion du monde. Geneviève Delru. Et on part à présent sur les chemins de la France rurale qu'a parcouru à pied l'été 2019 sous un soleil écrasant l'écrivain et journaliste Charles Wright avec son compagnon de voyage Benoît Parsac. Tous deux, aspirants jésuites, doivent accomplir ce rite de passage pour entrer dans la famille d'Ignace de Loyola. Partir un mois sans téléphone portable ni argent et compter sur la seule générosité de celles et ceux qu'ils rencontreront au cours de leur halte quotidienne, à savoir ces Français des territoires oubliés. Car c'est le Massif central que tous deux ont choisi pour ce parcours initiatique de 700 km du Limousin en Ardèche. Charles Wright, qui a finalement renoncé à entrer chez les jésuites, relate avec sa plume fine et sensible cette traversée à deux de la France des sous-préfectures dans un essai « Le chemin des estives » publié chez Flammarion.
Alors, les raisons profondes, déjà, donc, comme vous l'avez rappelé, j'étais chez les jésuites, et les jésuites imposent à toutes leurs futures recrues de passer par une série d'expériences, et parmi ces expériences, il y a ce qu'on appelle le mois mendiant, donc qui consiste à partir à deux, avec un camarade novice qu'on n'a pas choisi, en pèlerinage et sans un sou en poche. Donc c'est une expérience de dépouillement, plutôt que de remuer des idées générales sur la confiance, sur la pauvreté, sur la providence, et de l'expérimenter dans sa chair, voilà. Benoît Parsac et moi, on avait tous les deux les mêmes désirs, c'est-à-dire on avait un désir de nous immerger dans de la beauté, dans du silence, dans de la vacuité, et donc on a eu l'idée de traverser le Massif central.
Alors Benoît, donc, est un prêtre qui a été dans son passé, il a tenu un bar, c'est bien cela ? Et d'ailleurs, il y a un passage que je trouve très beau. Vous dites voilà qu'il s'est occupé des âmes. Vous écrivez qu'en remplissant les verres des ivrognes sur les comptoirs où se déverse la grandeur et la misère de l'humanité, il fit sans le savoir ses classes de consolateur des âmes.
Ah oui, il se passe beaucoup de choses sur les zincs des bistrots. C'est des endroits excellents, des zooms sur le cœur de l'homme. Et donc je pense effectivement qu'en écoutant, en versant des pastis et des suzes et des demi, il a appris beaucoup, peut-être plus que ce qu'on apprend dans un séminaire d'ailleurs, sur cette intrication de misère et de grandeur qu'il y a à l'intérieur de tout homme.
Donc après, il est devenu prêtre dans le nord de la France. Alors vous, c'est un tout autre parcours. Vous, vous sortez du monde, j'allais dire intellectuel, c'est-à-dire le monde de l'édition, mais aussi du monde politique, puisque vous avez été plume de ministre dans le passé.
J'ai fait Sciences Po, des choses comme ça, de l'histoire, et puis j'ai travaillé pour un ministre sous l'ancien régime, c'est-à-dire un ministre de Jacques Chirac. Puis j'ai travaillé dans le monde de l'édition. Donc voilà, j'avais une vie socialement réussie, en tout cas selon les critères de mes parents.
Et vous choisissez alors temporairement une forme de déclassement, mendier sa nourriture.
Oui, effectivement, j'ai pris le chemin inverse, c'est-à-dire un chemin de... Les gens normalement constitués veulent grimper l'échelle sociale. Nous, pendant un mois, on a vécu comme des mendiants puisqu'on n'avait vraiment rien, pas un sou en poche. Pas de carte bleue, pas de téléphone portable, une expérience de dénuement total en fait.
Vous écrivez que vous avez voulu rompre avec la France de Macron. C'est quoi la France de Macron? C'est cette France que vous décrivez?
C'est la France, la France qui réussit, la France branchée sur sur l'actu, toute cette France-là, le Black Friday, tous ces trucs-là qui reviennent souvent dans l'actualité et qui, moi, me laissaient dans le cœur un grand vide. Les Chartreux appellent ça la virginité spirituelle, un désir de se dégager de l'éphémère, de retrouver un contact très charnel avec la réalité. Ouais.
Il y avait pour vous, semble-t-il, en tous les cas vous l'écrivez, Charles Wright, une urgence à trouver ce qu'il y a d'immense et d'éternel et de divin aussi en chacun d'entre nous.
Oui, il y avait ça. Donc c'était à la fois un désir de quitter le monde contemporain, en tout cas provisoirement. J'avais 37 ans. J'avais échoué chez les novices jésuites après beaucoup, beaucoup d'expériences et je me rendais compte que c'était pas ma place. Et donc je me fatiguais, si vous voulez, de cette espèce de pathologie, de pas trouver mon endroit. Donc j'avais besoin de faire le point et puis de retrouver, c'est ça, cette espèce de grandeur qu'il y a en chacun. Et je me disais que m'immerger dans l'immensité des paysages infinis du Massif central, ça serait une façon peut-être de retrouver les immensités qu'il y a en nous.
Alors, par ce chemin initiatique, vous vouliez vous convaincre que vous n'étiez pas fait pour la vie religieuse.
Je suis parti dans le doute avec cette question existentielle. Où est-ce que je vais poursuivre mon chemin? Est-ce que c'est dans la vie religieuse? Est-ce que c'est dans la vie ailleurs, quoi? Et donc, la marche et ce voyage, c'est aussi justement un peu un parcours de discernement. Et la marche permet ça beaucoup. Peut-être qu'on en reparlera parce que, voilà, dans le silence, avec cette espèce de rythme du palan, les questions existentielles émergent et affleurent. Et c'est des moments très propices pour se retrouver, faire le point.
Oui, vous estimez effectivement que la marche est un médicament.
Oui, je le dis souvent, c'est un antidépresseur. Hein. Marcher comme ça, en toute liberté, traverser des forêts, caresser des vaches, c'est quelque chose qui est extraordinaire, qui fait un bien fou. Et ça fait un bien fou au corps. Et c'est pas rien parce qu'on est quand même dans des existences très assises. Donc éprouver son corps, avoir des douleurs musculaires, se rappeler qu'on a un corps, c'est important. Mais ça fait surtout du bien au cœur parce que peu à peu, une marche au long cours, ça lave, ça nettoie, ça débarrasse de toutes nos scories, vous voyez. Se couper de l'actualité pendant un mois, nous on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas de journaux, on n'avait rien. Eh bien, il y a quelque chose en soi qui se dilate, qui s'allège. Voilà, ça fait un bien fou. Et puis l'actualité, eh ben, c'est celle du vent, c'est celle des rencontres, c'est celle des fleurs, c'est celle des reliefs. Voilà.
Est-ce que ça n'est pas dur, malgré tout, de partir à deux? C'est à la fois plus facile, d'autant que Benoît, donc votre compagnon de marche, manifestement s'y prend mieux que vous pour obtenir chaque soir un dîner auprès des habitants d'un village. Il faut se supporter aussi. Et puis, vous n'avez pas la même vision, manifestement, de la vie religieuse.
Oui, c'est peut-être... je ne l'avais pas prévu comme ça, mais ça a sans doute été la difficulté principale du voyage. C'est d'abord et avant tout une épreuve de fraternité, parce qu'on est mis dans des conditions qui nous mettent vraiment à l'épreuve. Donc, et on ne peut pas se fuir. On est 24 heures sur 24 avec quelqu'un qu'on n'a pas choisi, qui a un caractère opposé au sien. Et en fait, en plus, Parsac et moi, tout nous oppose. Je dis dans le bouquin que... On forme un duo un peu comique, il y a un côté Laurel et Hardy ou Sancho Panza et Don Quichotte. Ça a été difficile et en même temps, ça a été aussi une grande force. Parce que dans les moments difficiles, l'union fait la force.
Dans votre sac de voyage, il y a trois personnes, mais surtout deux d'ailleurs. Il y a Charles de Foucauld, dont vous, manifestement, vous voulez embrasser la radicalité, la recherche absolue. Et puis, il y a Arthur Rimbaud. Et puis aussi, il y a un livre, L'imitation de Jésus-Christ, écrit par un moine allemand du XVe siècle. Et ces trois personnages, ces trois pensées, vont vous accompagner.
Oui, alors le voyage, c'est des rencontres, beaucoup de personnes en chair et en os, et on avait aussi des compagnons de papier, de fait. Donc on marchait sur les pas de Charles de Foucault, qui a passé quelques temps au début de son, après sa conversion à Notre-Dame-des-Neiges. Charles de Foucault, pour moi, c'est un frère, c'est un compagnon, c'est quelqu'un qui m'aide à vivre. Donc ça me plaisait beaucoup de marcher sur ses pas, d'essayer de le comprendre. Et puis on avait, moi en tout cas dans mon sac, j'avais la Pléiade, les œuvres complètes de Rimbaud. Rimbaud, c'est la fidélité à l'enfance, c'est celui qui dit non, c'est celui qui ne veut pas se compromettre avec l'esprit de sérieux, avec le monde des adultes. Et puis c'est celui qui m'a inoculé quand j'étais ado, parce que je l'ai lu comme tous les collégiens, le goût de la fugue. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui partent comme ça, qui sont capables de ne pas transiger sur leurs désirs et qui prennent la tangente comme ça pour aller partir en quête de l'absolu. Donc Foucault, Rimbaud, et puis L'imitation de Jésus-Christ, parce que avec mon camarade Parsac, on voulait une lecture commune. Parce qu'on se disait, surtout moi qui suis un peu taiseux, on avait besoin d'un peu d'alimenter la conversation, un mot assez long. On a réfléchi beaucoup, et L'imitation, c'est un texte, c'est des petits aphorismes, comme ça, qui sont dégraissés vraiment par... qui sont brûlés au feu intérieur. C'est un texte qui fait beaucoup de bien dans sa radicalité. Et donc on échangeait beaucoup avec Parsac, on s'échangeait des aphorismes comme ça en marchant.
Margerie, d'Aubrac, Causse, Cévennes, les quatre régions qui forment la Lozère sont des solitudes. Ce département est une addition de déserts. C'est le département le moins peuplé de France, avec la plus faible densité au kilomètre carré, le plus petit chef-lieu, la plus petite sous-préfecture. On dirait qu'il s'excuse d'exister, qu'il veut disparaître, ne pas se faire remarquer. Ce mauvais élève a d'autres arguments à faire valoir. À l'heure du cloud et de l'homme augmenté, l'irruption de ce désert avec ses rocailles, ses troupeaux, son silence, nous ramène au point d'origine. Dans ce royaume du pur espace et du rien, on peut éprouver, comme nulle part ailleurs, une sorte de conjugalité fabuleuse avec le monde, une incomparable qualité de solitude aussi. Or, par les temps qui courent, les possibilités de repli deviennent rares. Nous avons été dépossédés du désert. La connexion, la congestion et l'accélération enserrent nos existences jusqu'à l'étouffement et conspirent contre toute vie intérieure. Dans cette France harassée par la vitesse, le bruit, les machineries et les statistiques, le Massif central est l'une des dernières enclaves de silence et de liberté.
L'aventurier spirituel, c'est la définition que vous vous donnez, Charles Wright, a choisi donc le Massif central, la traversée du Massif central. Pourquoi avoir choisi ce lieu? Est-ce que vous considérez effectivement qu'on peut encore trouver des lieux en France, en Europe, où on peut s'exiler par rapport à la vie du monde?
Je dis dans le bouquin que je suis un aventurier de la France cantonale. Ouais, et c'est vrai, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de partir visiter les pôles pour, comme ça, faire provision de beauté, d'immensité, de rencontres aussi. Et donc, mon bouquin, c'est ça, c'est une sorte de grande vadrouille ou de virée buissonnière dans la France des pays, dans la France des sous-préfectures, dans cette France des routes secondaires, si vous voulez, et notamment dans le Massif central. Alors, pourquoi le Massif central? Bon, parce que c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup d'habitants, où il n'y a pas beaucoup d'autoroutes, où on se demande un peu où sont passés les gens. Hein. C'est un endroit qui est quand même assez préservé du flux, de la connexion, de l'agitation. Je dis que c'est un ermitage à ciel ouvert. Voilà, c'est une de... Je suis parti en préparant le bouquin sur une vieille théorie militaire. L'état-major français, après la défaite de 1870, s'est dit: qu'est-ce qui se passe si le pays est envahi? Où est-ce qu'on se... Et alors, il y a des officiers qui se sont dit: on va... le Massif central, c'est cette zone de repli où on pourra refaire nos forces. Je pense qu'il y a un peu de ça. Et c'est avec cette idée que je suis parti. Retrouver une sorte de base arrière où tous ceux qui ont un peu de peine aussi à trouver leur place dans une époque, la nôtre, qui manque parfois un peu de fraîcheur et de romantisme, eh ben peuvent aller respirer à ciel ouvert. C'est ça, le Massif central.
Le Massif central évoque aussi, non seulement bien sûr, ces monts arrondis, ces volcans éteints, ces forêts de chênes, cette nature sauvage, mais ça évoque aussi la diagonale du vide, c'est-à-dire le vide économique, une pauvreté paysanne, une forme de relégation pour une partie de la population.
Oui, tout à fait. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Massif central, c'est cette espèce de stent comme ça qui est posé sur le cœur de la France, au centre de la France, un grand vide, comme vous dites. Alors, c'est difficile parce que c'est des terres qui sont... Il y a toutes sortes de paysages, comme vous venez de le rappeler. Il y a des causses, il y a des bocages, il y a des collines, il y a des puits. Il y a... Mais néanmoins, moi, j'ai traversé 700 km de ce grand vide, de ce désert. J'ai senti qu'il y avait quand même une personnalité commune. J'ai eu l'impression de rencontrer presque un être géographique. Alors, qu'est-ce qui relie tous ces espaces? Vous venez de le dire, ce sont des terres qui sont très déclassées, où il y a peu d'habitants, des zones très isolées, et donc tout ce que détestent les gens qui font de l'aménagement du territoire, mais tout ce qu'aiment les poètes. Voilà, ce sont des endroits voilà, où on peut vivre de tout ce qui ne se monétise pas, c'est-à-dire la beauté, le silence, tout ce qui échappe à l'économie, à la rentabilité, à l'utilité, à l'utilitarisme. C'est ça le Massif central.
Charles Wright, votre livre, c'est toute une galerie de rencontres avec des gens souvent extrêmement généreux. Et ça fait du bien, votre livre, parce que bon, la France a une forte tendance à s'autodénigrer. Alors que là, vous, vous faites finalement presque l'apologie de la France généreuse. Hein, de ces gens qui vous ont reçu, bon, il y en a qui vous ont fermé leurs portes, hein, mais de ces gens qui généralement vous ont reçu à table, parfois pour des dîners, j'allais pas dire somptueux, mais en tous les cas extrêmement bons.
Deux fois, on a réussi à avoir du foie gras et du champagne, il faut le faire quand même, hein, alors qu'on est parti sans rien. Oui, vous avez raison, c'est une plongée dans cette France... un peu oublié, cette France que les géographes appellent la France périphérique ou des territoires, des gens qui sont... On a traversé tous les milieux sociaux, c'est-à-dire que c'est à la fois les petits paysans, les petits artisans, les petits fonctionnaires, et puis aussi un peu la haute, enfin la haute, un repas, un gueuleton chez la sous-préfète de Saint-Flour, un vieux prof émérite à la Sorbonne. Donc il y a tout le millefeuille de la société, mais néanmoins les gens chez qui on a surtout été accueillis, ce sont plutôt des gens pauvres. Un peu les oubliés de l'accumulation du capital, les gens dont on n'entend pas parler, qui ont de la peine à boucler les fins de mois. Un peu la France des gilets jaunes. Hein. Bon, le contact, il est un peu rugueux au début, parce que ce sont des gens qui sont taillés dans le granit ou dans la pierre de lave, mais quand la glace est brisée, ce sont des cœurs d'or. Et moi j'ai reçu... des manifestations de bonté qui ont été extraordinaires, vraiment de générosité extraordinaire. Et c'est un voyage qui m'a de fait réconcilié pas mal avec l'humanité en général et puis avec la France, parce que comme vous dites, on aime bien se flageller, on aime bien s'accabler de tous les maux. En fait, non, on se rend compte quand on voyage de la sorte, déjà que la France est une splendeur géographique et que les Français, ils sont pas si terribles que ça et que quand on frappe à la porte des gens les mains vides comme des mendiants, on attise chez eux ce qu'il y a de plus beau, de plus divin peut-être, c'est-à-dire la générosité, le fait de se donner comme ça en pure perte.
Vous partez donc du Limousin, donc je le rappelle, en direction de Notre-Dame-des-Neiges en Ardèche, parcours de 700 km, Charles Wright. Vous partez en aspirant jésuite et dans le même temps, vous allez rencontrer une France en plein décrochage religieux.
C'est un peu cocasse, c'est vrai, deux aspirants religieux comme ça qui partent la fleur au fusil et qui se rendent compte à quel point la France est déchristianisée et à quel point le christianisme est en état de mort cérébrale, en tout cas dans les profondeurs du pays. Voilà, les églises qui sont vides, faute de fidèles, trouver quelques églises ouvertes avec une vieille grand-mère qui allume le tabernacle au fond de l'église, mais qui ouvrira l'église à la mort de cette grand-mère? Il y a quelque chose qui meurt, voilà. Et alors on fait venir les évêques qui sont comme ça un peu prisonniers d'un modèle militaire selon lequel il faut quadriller le terrain, font venir des prêtres africains ou des prêtres polonais, les pauvres qui couvrent des paroisses de 30-40 clochers, mais tout ça est un cache-misère, est une rustine. Voilà, il faut ouvrir les yeux et voir qu'il y a quelque chose qui s'appelle la civilisation paroissiale qui est en train de mourir. Voilà. La question c'est, est-ce que c'est la mort du christianisme? Est-ce que le christianisme est en train de disparaître comme il a disparu à certaines époques? Je pense à la situation du christianisme en Afrique du Nord. Voilà, à l'époque de Constantin, une heure de... puis ça a complètement périclité. Ou est-ce qu'on est en train d'assister à l'agonie d'un modèle? Et est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger sur les ruines de ces décombres? Je pose la question.
De même, vous soulignez cette incompréhension, souvent face au christianisme. Et vous dites non, c'est pas la religion des dômes, comme on peut le croire, c'est une religion solaire. Expliquez-nous, Charles Wright.
Ben oui, ça me fait de la peine, étant chrétien, c'est-à-dire essayant de vivre dans le style d'un vieux rabbin juif qui s'appelle Jésus-Christ, de voir à quel point son message a été pendant des... je ne veux pas avoir un ton polémique, mais pendant des décennies mal enseigné et à quel point ça a suscité des blessures. Le nombre de personnes, notamment dans la génération des gens qui ont entre 50 et 60, 70 ans, pour qui ce message, en fait, est devenu inaudible. On emploie des mots, voilà, tout un jargon chrétien, mais qui ne réfère plus à leur existence. Vous voyez, le langage chrétien est devenu un patois presque, hein, et ça fait de la peine. Et puis, notamment, je pense qu'on a un peu, pendant des décennies, un peu empoisonné la vie des gens avec les questions de morale, les questions de vie sexuelle et toutes ces questions-là, donnant une mauvaise image de cette religion qui n'a pas grand-chose à voir. Je pense qu'on aurait besoin aujourd'hui d'une théologie du bonheur. Dire que le christianisme, c'est la religion de François d'Assise, de Charles de Foucault, la religion de la joie, une religion solaire, allègre, et non pas cette espèce de corset ou de carcan qu'on a mis sur, dans la vie des gens et qui les a empoisonnés, qui les a détournés de ce message, qui est un message de libération profonde.
Charles de Foucault, dont vous dites qu'il voyait Dieu dans le visage des Touaregs musulmans.
Oui, Charles de Foucault qui a passé... Alors, qui est intéressant parce que c'est un évolutif. Ce qui est intéressant chez Charles de Foucault, c'est de voir justement le chemin qu'il a fait. Parce qu'à certaines périodes de sa vie, ça aurait pu être le saint patron des intégristes. Il était complètement pris dans une logique de rupture avec le monde. Et puis de voir comment, au contact des Touaregs, c'est-à-dire des musulmans, perdus au fin fond du Hogar, en étudiant leur langue, parce qu'il a fait tout un travail ethno-linguistique absolument fascinant, il va se libérer et il va devenir ce témoin, cet homme évangélique, c'est-à-dire cet homme de joie, cet homme libre. C'est ça qui est intéressant dans le christianisme, la liberté.
Les moines que vous allez retrouver à Notre-Dame-des-Neiges sont une interrogation pour le monde moderne. À quoi servent les moines? À quoi servent ces hommes, mais ces femmes aussi, ces moniales, qui sont à l'intérieur de leur monastère? Est-ce que leur prière pour le monde est utile? C'est une question que vous vous êtes souvent posée ou pas? Ou est-ce que vous estimez que ceux qui se mettent en retrait, comme vous, vous aimez vous mettre en retrait, est-ce que vous estimez que ces personnes, cette posture, j'allais dire, spirituelle, est utile au monde?
C'est une question abyssale. Moi, j'ai écrit un livre avec un moine il y a quelques années qui s'appelait « À quoi servent les moines, justement ?» En fait, ils servent à rien, c'est ce qu'on dit souvent, c'est la réponse classique, ils servent à rien, mais ils servent à rien comme toutes les choses qui ont le plus de prix. C'est la rose du grand mystique allemand Angelus Silesius, la rose est sans pourquoi. Tout ce qui a de la valeur, la poésie, un sourire, une fleur, l'amour, ça ne s'explique pas, c'est sans raison, c'est sans pourquoi. Les moines, je pense que c'est de cet ordre-là. Et puis c'est un point d'interrogation. C'est des gens qui nous questionnent et qui font ce petit pas de côté, non pas du tout pour fuir le monde, non pas parce qu'il faudrait se mettre à l'écart d'un monde qui serait un monde de perdition ou je ne sais quoi, mais parce que prendre cette petite distance par rapport à l'esprit du monde et avoir cette posture pour se dire, voilà, il y a peut-être autre chose qui nous questionne. Et donc je crois que ce point d'interrogation, de ce point de vue-là, est très, très important pour chacun d'entre nous, y compris les gens qui ne sont pas religieux.
Vous avez rencontré beaucoup de sacrés, manifestement, à travers des rencontres où les personnes n'étaient pas du tout religieuses ou pas particulièrement religieuses.
Oui, ça aussi, c'est intéressant pour deux novices comme ça qui partent la fleur au fusil, soit pas du tout pour convertir, mais en se disant un peu envoyé comme les... Finalement, le Christ, il envoie ses apôtres par deux, sans bâton, sans rien. On a souvent médité cet évangile avec Parsac. Et dans l'évangile, c'est aller convertir, aller annoncer la bonne nouvelle. En fait... C'est nous qui avons été convertis par les autres, y compris par les non-croyants, évidemment, c'est-à-dire la générosité, l'hospitalité dont on a été l'objet est éminemment évangélique, hein, ça c'est sûr. Puis, de plus en plus, moi je crois que le vrai transcendant, le vrai culte, c'est pas le culte qu'on rend à l'Église, c'est le culte du prochain. Le transcendant, il est dans les visages. C'est ça le vrai sacré, les visages.
Votre vision du sacré s'est modifiée, s'est métamorphosée pendant ce voyage. Est-ce que votre vision de la vie religieuse en général s'est modifiée aussi? Vous estimez qu'on peut pratiquer une forme de vie religieuse en n'étant pas dans les institutions? C'est un peu tout cela, votre, l'aboutissement de votre voyage de 700 km à travers le Massif central, Charles Wright?
Oui, alors ce point, à savoir que le vrai sacré, la vraie transcendance, elle est chez l'autre, c'était déjà présent chez moi. Mais ce que ce voyage a permis, c'est d'assumer, effectivement, de vivre la radicalité évangélique en dehors des clous. Moi, j'ai toujours été un peu en dehors des clous, c'est comme ça depuis mon enfance. Et donc j'ai voulu, après une conversion, quand j'avais 30 ans, quand on a une conversion, on est plein d'ardeur, on se dit que le débouché naturel de cette espèce de... Eh ben, c'est la vie religieuse. Mais la vie religieuse, non, j'ai pris conscience que je pouvais suivre le Christ radicalement, voilà, dans une vie d'homme, tout simplement, voilà, et qu'il y a une religion aussi buissonnière, c'est-à-dire que le sacré, il est aussi dans la nature, il est partout, on ne peut pas enfermer le sacré, on ne peut pas l'enfermer dans un tabernacle. Je ne dis pas qu'il n'est pas dans le tabernacle, mais il déborde. Le Christ, il est toujours plus grand, c'est la prière de Teilhard de Chardin. Il est même plus grand que la forme qu'on lui a donnée en Occident. Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour tous ces aventuriers christiques dont je me sens un peu, bien humblement, dans cette lignée, qui sont partis essayer de, comme Jules Montchanin, Henri Le Sault, son successeur Yann Vagneux, ce sont des gens qui sont partis, par exemple, vivre, s'immerger dans une autre tradition au nom du Christ. Et ces gens-là, le témoignage de ces gens-là, c'est de nous dire que le Christ est plus grand, que ça déborde. Et donc, faut sortir.
Le sacré est dans la nature, Charles Wright. Alors, on ne peut pas terminer cet entretien sans évoquer les vaches. Ce qui, d'ailleurs, crée avec votre compagnon de route des dissensions, des divergences.
Mais oui, le pauvre, parce que Parsac ne partageait pas mon amour impénitent pour les vaches, et donc il comprenait pas, parce que ça nous mettait souvent en retard. Moi, je peux pas croiser une vache sans m'arrêter, et du coup c'est vrai que dans le Massif central c'est embêtant, parce qu'il y a plus de vaches que d'habitants. Oui, ces bêtes souffrent de discrédit, une peau de vache, un regard de vache, alors que, c'est ce que je dis dans le livre, ce sont à la fois des tranquillisants, des antidépresseurs, une fois encore. Voilà, regarder une vache comme ça dans un champ, c'est quelque chose qui fait monter dans le cœur une quiétude. Et puis ce sont des, je dis ça sérieusement, ce sont des professeurs, des maîtres spirituels, des gourous presque. Hein. Elles mâchent pas seulement de l'herbe, elles ruminent pas seulement de l'herbe, elles ruminent du temps. Elles nous ouvrent à une autre temporalité. Elles nous regardent passer comme ça, affairés, en nous disant mais après quoi courez-vous, ralentissez, tranquille. Et puis elles sont belles tout simplement, elles sont gracieuses, elles sont féminines, elles sont tendres, elles sont pacifiques. Ce sont des bêtes extraordinaires.
L'éloge des vaches de Charles Wright, qui signe chez Flammarion le chemin des estives. Religion du Monde, Geneviève Delru, Sophie Janin vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous. L'épopée des musiques noires.
Cet été, nous plongeons au cœur des festivals pour célébrer le spectacle vivant. Cela fait 60 ans que Jazz à Jouan accueille les plus éminentes figures de notre temps. Le 12 juillet,